Oui, bonjour, vous m'entendez?
Et vous?
Alors, moi là, je vous entends pas très bien. Est-ce que vous êtes avec le téléphone à l'oreille ou avec les écouteurs?
Alors, parce que
Alors, je vous entends très très mal.
j'enlève.
Alors, peut-être que votre connexion
Oui.
internet est un petit peu
Moi, je
instable.
vous entends pas là.
Vous
Je
m'entendez
vous
pas du
entends très
tout?
mal.
Alors, moi, ça y est, je vous entends bien. Alors, si vous entendez un petit écho de ma part, c'est normal. Donc, vous, ne vous en préoccupez pas. Là, allez-y, parlez. Je vais voir si le son est meilleur.
Est-ce que vous m'entendez bien?
Très bien, parfait. Donc, voilà, vous parlez tout
Bon.
simplement comme ça. Je suis désolée pour l'écho, c'est un petit peu gênant, mais normalement, ça devrait pas poser de soucis. Alors, dans un premier temps, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview un petit peu au pied levé. Je vais vous poser une première question très simple. Je vais vous demander donc de vous présenter donc votre nom, prénom et fonction, s'il vous plaît.
Irène Frein, écrivain.
Très bien, tout en simplicité. Alors, vous allez donc participer à ce festival du livre à Nice. Vous venez chez nous ce week-end. Dans un premier temps, quel effet ça vous fait de venir à ce festival?
C'est un rendez-vous quasiment rituel pour moi parce que je suis membre du jury du prix littéraire Baie des Anges depuis une vingtaine d'années, quasiment depuis sa fondation. Et le Festival du Livre, je le connais depuis très longtemps. Et je l'ai même connu avant même d'être écrivain, quand il se tenait dans une sorte de palais des congrès qui était place sur cette esplanade là, gigantesque où il y a maintenant un très beau jardin. Et c'était le temps où Jacques Médecin régnait en maître sur la ville. Mais moi, j'y étais allée en tant que lectrice. Et c'était le premier salon du livre en France, avant même le salon du livre de Paris, qui a lancé la mode des salons du livre. Et je me souviens avoir notamment vu le cinéaste Rossellini parler du rapport de la littérature et du cinéma, et également des auteurs américains. Et cette effervescence littéraire, ces idées qui fusait de tous les côtés, cette possibilité de rencontrer des écrivains, des hommes d'une immense culture et des pointures mondiales, m'avait absolument, je peux pas vous dire, enthousiasmée, bouleversée, stupéfaite. C'était magnifique. Et donc, ça a toujours été pour moi un honneur que d'y aller, enfin, quand on m'a demandé en tant qu'écrivain de m'y rendre. Et j'aime beaucoup la ville de Nice. Vraiment, j'adore cette ville, sincèrement. J'y ai des amis. Je me souviens avoir eu justement, hélas, il est disparu dans un accident, Louis Nucera, qui était un grand écrivain qui connaissait magnifiquement Brassens et qui écrivait formidablement sur le vélo. Il adorait le vélo. Et moi aussi, à une époque où c'était pas du tout la mode de faire du vélo. Donc, j'ai toutes sortes de magnifiques souvenirs.
Oui, je comprends bien, ça s'entend en tout cas. Alors cette année, donc vous venez de le dire, vous êtes jury pour un prix littéraire, mais vous avez aussi une autre mission cette année.
Oui, c'est lire la dictée, faire la
Exactement.
dictée.
Alors comment est-ce que déjà c'est la première fois que vous le faites?
Vous savez, dans ma vie, j'ai eu plusieurs vies et j'ai eu une vie où j'étais professeur. Et donc, j'ai lu beaucoup de dictées à des élèves. J'en ai corrigé beaucoup.
Ah, et du coup, ça vous
Donc,
manquait?
je connais, j'ai également participé en tant qu'écrivain à la dictée de Pivot, notamment à la BNF. Il y a très longtemps, elle n'était pas finie, la BNF. Donc, je n'avais pas fait beaucoup de fautes, d'ailleurs. Mais je crois que je l'ai fait aussi dans une autre ville importante, toujours avec Pivot, mais je pense que c'était Blois. Mais comment vous dire je l'aborde avec joie. Je pense que ça va être un moment ludique, contrairement à ce que c'était les dictées quand j'étais prof en sixième ou en cinquième. Bon, là, les élèves avaient toujours un peu peur de faire des fautes. Mais bon, moi, j'étais un professeur joyeux, gai, donc ça va pas trop me changer. Je pense qu'on va beaucoup s'amuser, je l'espère. Tout ça, c'est pour dire qu'on aime les mots, pour partager dans l'allégresse le plaisir des mots. Et je pense que ça va bien se passer.
Oh oui, bah de toute façon, le but, ça reste quand même de s'amuser.
Oui, Voilà, et puis ça mélange toutes sortes de générations. C'est ça qui est très important dans le monde actuel. Et j'espère qu'il y aura des mômes. Voilà, pas seulement des personnes aux cheveux gris ou blancs qui sont, et je les comprends, du reste nostalgiques de cette période où l'amour de la belle langue française était assez universellement partagé. J'espère qu'il y aura vraiment toutes les générations représentées.
Vous l'avez vu le texte ou pas encore?
Non, je ne l'ai pas vu, mais tant mieux, parce que ce sera une surprise et parce que du coup, je pourrai mieux le lire. Moi, j'adore la spontanéité, je ne suis pas quelqu'un qui prépare, je trouve que le naturel et la spontanéité sont ce qu'il y a de mieux au monde. C'est la vie. Donc, j'espère que ça va être un moment de vie joyeux et de partage et de découverte réciproque.
Bah, des découvertes, c'est fort probable puisqu'on parle quand même la langue française qui est très très complexe, même pour les Français. Et vous, justement, de votre regard d'ancien professeur et d'écrivain, c'est quoi les plus gros pièges en orthographe ou en grammaire? Qu'est-ce que c'est la faute récurrente? Quelle est la faute récurrente ou en tout cas une des plus compliquées peut-être, ou un mot peut-être un peu complexe qu'on retrouve
Alors, vous savez, par exemple, moi, je peux vous parler des fautes que je fais. C'est mieux. Il y a des règles dans la langue française, donc quand on les a apprises, ça, c'est encore assez simple. L'accord du participe passé, ça, c'est des règles sûres. Pour moi, qui ai fait du latin et notamment du grec, les mots d'origine grecque ne me pose pas de problème parce que je vois très bien le mot grec qu'il y a derrière, écrit en alphabet grec. Donc, quand il y a un Y et un H, je connais le mot grec, je sais qu'il faut le mettre. Vous voyez?
Par exemple, vous avez un
Ça
exemple?
ne pose pas vraiment de problème. En revanche, il y a des mots avec des consonnes redoublées. Moi, j'avoue que de temps à autre, j'ai des hésitations, par exemple sur charrette, par exemple, est-ce qu'il y a un R ou deux R. Donc, je vérifie. Et comme on écrit maintenant beaucoup sur les ordinateurs, ben, on écrit sur Monsieur Google, n'est-ce pas, Mister Google, et on voit s'afficher la bonne orthographe. Donc, c'est plutôt là que j'ai parfois des doutes, ou par exemple des expressions comme autant pour moi. Bon, bah, j'ai longtemps ignoré, je vous le confesse humblement, que c'était O-A-U et à côté T-E-M-P-S. Je crois que c'était autant comme autant en emporte le vent, vous voyez.
Oui.
Donc on a toujours des surprises, mais c'est aussi ça le charme de l'orthographe. Et en tout cas, si on est humble, je crois qu'il faut, pour être bon en orthographe, il faut avoir beaucoup d'humilité, c'est comme beaucoup de choses. Il ne faut pas se dire, moi je suis champion. Et non, on n'est pas champion, c'est comme le ski ou la course à pied, voilà. Et on essaye et on apprend, et c'est en étant simple qu'on apprend le mieux.
Alors, au-delà de l'humilité, est-ce que vous avez quand même des conseils, surtout pour les jeunes générations? Parce qu'aujourd'hui, l'orthographe est de plus en plus compliquée, en fait, pour les jeunes générations. Elle est peut-être un peu
Bah
moins
oui, elle n'est
évaluée,
pas si
aussi.
complexe que ça en fait. Il y a un très bon manuel, qui est un grand classique. Je ne fais pas de publicité, je n'ai pas d'action, mais c'est le manuel Becherel
Oui.
sur l'orthographe, sur les règles de grammaire. On a tous appris avec ça, c'est un grand classique. On apprend très bien avec le Becherel. Moi, j'ai des petits-enfants, les parents m'ont consulté, j'ai dit, bah voilà, on va faire du Becherel, on va faire des exercices. C'est assez simple. Et c'est assez amusant.
Parce que il y a aussi, enfin, je le vois beaucoup sur les réseaux sociaux, par exemple. Alors, faut pas lire tout ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, mais quand même, la pensée qui arrive un petit peu, même au niveau de l'éducation nationale, j'ai l'impression, c'est que quelque part, l'orthographe, c'est presque devenu secondaire. Qu'est-ce que vous pensez de ce discours-là, du fait
Ben
que l'orthographe, quelque part, on s'en
ça fait
fiche?
partie, oui, ça fait partie de la démagogie actuelle. C'est-à-dire que moi, je suis extrêmement respectueuse de la personnalité des enfants et je suis évidemment pas contre la fessée. Et moi, on m'a appris l'orthographe à coups de règle sur les doigts et je trouve ça d'imbécilité totale. C'est comme la lecture, vous ne ferez jamais lire à quelqu'un, que ce soit un enfant, un adulte, en le poussant dans une librairie avec une mitraillette dans le dos. Le principe de la lecture obligatoire, il faut que les choses soient un plaisir. Mais entre le plaisir et le laxisme, il y a un abîme. Donc, voilà, et il faut... J'ai enseigné, j'ai commencé à enseigner très jeune, j'avais 21 ans. J'ai enseigné pendant 15 ans en lycée et en université. C'est à peu près dans les années 80 qu'on a commencé à enseigner non plus la grammaire, mais la linguistique de théorie linguistique élaborée à l'université. À partir de ce moment-là, les professeurs ne maîtrisaient même pas ces théories linguistiques qui étaient des espèces d'usines à gaz absurdes, qui ont démontré leur absurdité au fil des années. Donc il y a une première génération qui n'a plus appris la grammaire, que des paysans français perdus dans une cambrousse maîtrisaient très bien hein, quand ils avaient appris leur certificat d'études, quand ils avaient passé leur certificat d'études. La Troisième République avait réussi quelque chose absolument extraordinaire qui était le savoir pour tous. Donc après, à partir de 1980, on a voulu détruire tout ça et les choses étaient incompréhensibles, même pour les professeurs qui tentaient de les enseigner. Donc, à partir de ce moment-là, la grammaire, n'en parlons pas. L'orthographe, alors là, c'était répressif. Et on a permis toutes sortes de choses. Et puis, après, sont intervenus sur les ordinateurs les correcteurs orthographiques. Donc, c'est très bien, j'ai rien contre la technologie. Et on s'est dit, et là, s'est répandue l'idée que c'était secondaire. Or, c'est pas du tout secondaire, parce que l'orthographe, elle révèle une connaissance, une réflexion sur le sens de ce qu'on écrit. Donc, c'est pas seulement qu'il y a plus d'orthographe, c'est qu'on écrit n'importe quoi. Et on écrit, par là-dessus, il y a eu les textos avec les abréviations et les orthographes phonétiques, enfin qui ne sont pas des orthographes, qui sont c'est de la phonétique. Tout ça est assez sinistre parce que un livre ne s'écrit pas en phonétique.
Bien sûr.
Voyez.
Et en plus, il paraît que sur les écrans, on a plus tendance à faire de fautes naturellement en tapant sur un clavier qu'à la main où on a gardé peut-être une gymnastique du poignet.
Oui, c'est une discipline mentale qui est en fait une discipline de l'esprit en général. C'est-à-dire que si vous faites des mathématiques, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Hein, dans le maniement des chiffres et des lettres, il y a aussi des lettres. Hein. AX plus B égale, etc. Hein. Donc, curieusement, on leur demande d'être hyper exact en mathématiques et en physique. Et bon, dès qu'on fait un écrit français, on a le droit à n'importe quoi. Donc, la culture s'effondre par défaut de discipline. Mais par exemple, dans le sport, si vous n'avez pas de discipline, vous ne serez jamais champion du monde. Hein. Vous pouvez courir après votre médaille olympique. Pour apprendre le permis de conduire, il faut être très précis. Vous êtes retoqué si vous n'êtes pas précis. Et là, vous avez des vies en jeu. Pareil pour la médecine.
Oui, mais parce que
si vous écrivez mal le nom du médicament et de la dose, vous pouvez tuer quelqu'un.
Tout à fait, mais alors justement, on a un peu cette tendance actuelle à dire que les matières scientifiques sont peut-être plus importantes. Moi, je me souviens quand j'ai passé mon baccalauréat, enfin quand il fallait choisir les fameuses orientations S, S ou L à l'époque, tout le monde me disait, faut que tu fasses un bac S, alors que je voulais faire un bac L. Donc voilà, il y a quelque part cette espèce de domination du scientifique au détriment du littéraire. On se dit que si on fait du scientifique,
si on maîtrise le scientifique, on peut tout faire. Scientifiques dans le monde entier prouve que la connaissance de la littérature est essentielle pour faire des études scientifiques de qualité. C'est-à-dire qu'on ne forme plus des esprits ouverts, on forme des techniciens bornés. Sauf peut-être en matière d'inventivité informatique, où là, où là, il y a des esprits très plastiques. Mais l'étude du français, de la langue nationale, y compris aussi des langues anciennes qu'on apprenait avant et qui permettaient de mieux comprendre la langue française, forment des esprits d'une plasticité gigantesque qui est essentielle. Les gens les plus intéressants sont les esprits plastiques et non pas les esprits bornés qui appliquent des procédures. Mais maintenant, on enferme les gens dans des procédures et ils sont comme des chevaux avec des œillères. Vous voyez ?
Oui, je vois tout à fait. Excusez-moi. On va revenir rapidement sur la dictée, comme ça après je vous laisse tranquille. Donc cette dictée, c'est samedi, c'est bien ça ?
Pardon, c'est ?
La dictée, c'est bien samedi, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
D'accord. Alors si vous aviez un mot pour nos auditeurs, pour leur dire de venir, qu'est-ce que ce serait ?
Moi je leur dirais venez, on va se rencontrer et on va bien s'amuser.
Eh bien écoutez, j'espère que du coup tout le monde s'amusera bien. Pour moi c'est bon, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez ajouter ?
Que je fais ma valise pour Nice avec un immense bonheur, et quel que soit le temps. Et même s'il pleut, c'est pas grave. En plus, moi, je suis bretonne, alors bon.
Ah oui, bon. Vous voyez. Je vous souhaite quand même qu'il y ait un peu plus de soleil qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il pleut. Donc, j'espère que ça sera un peu mieux
mais
samedi.
Je viens d'un pays, en breton, il y a, je crois, 15 mots pour définir toutes sortes de pluies. Mais on a un très beau mot pour le soleil. Et là, on sait que la pluie n'est pas grave, puisque après, il y a toujours du soleil, et à Nice tout particulièrement.
Bon. Bien écoutez, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour cette interview, pour m'avoir dit tout ça. Ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir. Hop, j'arrête.
Merci à vous.